Et donc la prédication d'aujourd'hui, ben, vous l'avez compris, c'est sur le thème de la patience. Nous sommes dans une série sur le fruit de l'esprit et aujourd'hui nous poursuivons notre découverte des 9 éléments constitutifs du fruit de l'esprit. J'oserais dire peut-être les 9 saveurs du fruit de l'esprit puisque nous l'avons déjà souligné, le fruit de l'esprit nous est présenté comme un tout unique. On pourrait par exemple prendre l'image d'une orange dont on peut distinguer la subtilité, différentes subtilités de plusieurs saveurs, celle du jus, celle de la chair, celle de la pulpe, et même celle de la peau, hein, qui est utilisée dans certaines préparations pour faire du zeste ou des pâtisseries enrobées de chocolat. Et comme l'image du fruit unique nous le suggère, il règne entre ces éléments, ces 9 éléments, une diversité harmonieuse propre à régaler nos âmes et à assaisonner savoureusement nos relations. Et dans ce préambule, j'aimerais encore rappeler que tout fruit est le produit de ce qu'il nourrit. Et à ce titre, le fruit de l'esprit est l'expression de ce que l'esprit produit en nous. Et nous ne pouvons donc pas être par nous-mêmes les producteurs de ce fruit, ni même seulement y tendre. Et quand bien même nous nous attacherions à cultiver ce fruit dans tous ses aspects, nous ne saurions le produire sans l'action de l'esprit en nous. Nous le savons, lorsque cette action se déclenche, lorsque nous entamons un processus de conversion de nos vies. Et d'ailleurs, la décomposition en 9 éléments n'est-elle peut-être destinée qu'à nous aider à appréhender une richesse et une harmonie qui n'existe qu'en Dieu, que lui seul peut produire. Nous avons dans cette image une représentation reconnaissable de la pensée, de l'action de l'Esprit de Dieu dans la vie d'une personne. Quand il s'y établit, ce n'est pas pour nettoyer seulement le salon. Et je choisis volontairement le salon parce que c'est peut-être la pièce la plus publique, celle qui est tournée vers nos relations. Et la saveur du jour, après l'amour, la joie, la paix, c'est la patience. Quand j'ai annoncé ça à Chantal, elle m'a dit « C'est vrai, c'est toi qui vas prêcher sur la patience ?» Ils n'avaient personne d'autre. Et des 9 éléments, la patience, c'est peut-être celui qui induit le plus en nous un tiraillement entre idéal et réalité. Et ce tiraillement ressort dans l'expression populaire « ma patience a des limites ». Et nous n'avons pas ce tiraillement avec l'amour, et nous ne ressentons pas ce besoin d'y mettre une limite, au contraire, nous aspirons à les repousser. Nous délectons nos âmes d'une joie et d'une paix que nous espérons sans limite. Lequel d'entre nous n'est pas attristé par ses limites en matière de bonté, de bienveillance, de douceur, de fidélité, peut-être plus encore de maîtrise de soi. Mais pour la patience, c'est drôle. Dès qu'elle est sollicitée, on s'inquiète. Patient, jusqu'à quel point ? Patient, jusqu'à quand ? Et d'ailleurs, n'avons-nous pas cette idée que la patience de Dieu lui-même a des limites ? Que même pour Dieu, il y a un moment où trop c'est trop. De nombreux épisodes bibliques débouchant sur des jugements peuvent alimenter cette pensée, comme l'état du monde avant le déluge, l'épisode de la tour de Babel avant la dispersion par les langues, la généralisation de l'idolâtrie avant la déportation à Babylone, et même les dernières paroles de l'apôtre Paul dans le livre des Actes sonnent comme l'expression de la fin de la patience de Dieu envers les Juifs qui ne reçoivent pas Jésus comme le Messie. Mais est-ce que nous ne projetons pas là sur Dieu nos propres limites ? Nous ne savons pas combien de temps nous devrons attendre la fin d'une situation pénible. Lui-ci. Nous ne savons pas jusqu'à quel point nous pourrons être humiliés, harcelés, provoqués, que dans quel retranchement nous pourrons être poussés. Lui, si. Où est la vraie patience? C'est celui qui peut espérer chaque matin voir les choses changer enfin, ou bien chez celui qui connaît tout d'avance, mais qui va au bout du temps qui est fixé, ou qui encore multiplie les occasions données aux hommes de se repentir. Où est la vraie patience? En nous ou en Dieu? Nous trouvons parfois dur de ne pas savoir de quoi demain sera fait, et peut-être plus particulièrement en ce moment. Mais reconnaissons que ce pourrait être plus dur de le savoir. Nous pouvons trouver dur de ne pas savoir à quoi s'attendre de la part des hommes, mais avouons que ce serait peut-être plus dur de tout savoir sur leurs sentiments, leurs intentions à notre égard. Que nous réalisons que Dieu sait tout cela et que malgré tout cela, sa patience demeure. Et un texte sur la patience de Dieu a particulièrement attiré mon attention et je vous invite à le lire. Il se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, et je lis à partir de la fin du verset 22. Il n'y a pas de différence. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Ce passage est bien connu pour résoudre le problème de la tension entre la justice du Dieu saint, qui ne laisse aucun péché impuni, et son pardon total et gratuit de tous nos péchés. Mais je m'attarde en particulier sur deux expressions. Une victime expiatoire pour ceux qui croiraient, et l'autre deuxième expression, c'est les péchés impunis, à l'époque de sa patience. Et en englobant comme ceci le passé et le futur, nous avons là au principe qui donne au sacrifice de Jésus une portée qui transcende le temps. Et donc le temps de la patience de Dieu dont Paul parle aux Romains s'inscrivait dans la poursuite d'un but bien précis. Et il explique très bien un peu plus loin au chapitre 7, son but était de nous confronter à sa sainteté, pour que nous réalisions notre déchéance et que nous nous tournions vers lui pour notre salut dans un appel désespéré. Sauve-nous Seigneur, car nous-mêmes, nous n'y parvenons pas. Et tous les croyants, ceux d'avant Jésus comme ceux venus après, qui ont lancé cet appel à Dieu, bénéficient d'une même grâce. Entendu dans la bouche même de Jacques Bujold, de le théologien Jacques Bujold, cette expression. Jusqu'à Jésus, Dieu a congelé tous les péchés des croyants de l'ancienne alliance jusqu'au sacrifice de Jésus pour les lui faire porter avec les nôtres sur la croix. Et de même, Jésus a porté il y a 2000 ans les péchés que nous n'avions pas encore commis dans notre échelle de temps humaine. Alors oui, bien sûr, nous pouvons nous méprendre sur la patience de Dieu. Le verset de l'Épître de Pierre que nous avons lu durant la minute pour les enfants nous le confirme. Alors que Dieu use de patience envers nous en nous donnant des occasions de nous détourner de nos mauvaises actions, afin que nous cessions de courir à notre perte, comme il est dit, nous pouvons abuser, voire nous moquer de cette patience, en ne prenant pas au sérieux ses appels. Dieu n'a pas de limite. Alors pourquoi sa patience en aurait-elle? Dieu n'est pas un homme pour arriver à bout de patience. Dieu n'est astreint à aucune limite, et cependant il en fixe. Et quand il exerce son jugement, c'est que les limites qu'il a fixées d'avance sont atteintes. Et Dieu donc poursuit un but. Et sa patience s'inscrit dans ce but. La patience de Dieu envers nous a pour but de nous révéler sa personne, sa présence à nos côtés, quand nous nous égarons, à nous obstiner à ne pas considérer la façon de voir les choses. Il veut nous montrer autre chose de meilleur que notre propre justice, notre propre logique, ramener et élever nos pensées vers lui. Puisque Dieu emploie la patience au même titre que l'amour, et d'ailleurs, Dieu est amour, il nous est-il dit, mais aussi la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, hein, contrairement aux divinités qui sont connues dans le particulièrement dans le monde grec, d'avoir des emportements, d'être soumis à leurs impulsions, à leurs pulsions profondes. Dieu, lui, a une parfaite maîtrise de lui. Donc, pas étonnant que, puisque Dieu emploie le fruit de l'amour dans sa globalité, dans toutes ses saveurs, et donc pas étonnant que la patience figure parmi tout ce que son esprit est capable de produire en nous. Et par répercussion, donc, nous sommes conduits à regarder la patience que Dieu nous appelle à cultiver sous l'action de son esprit en termes de but à poursuivre. Pour nous-mêmes, tout d'abord, dans la vie quotidienne, une foule de choses peuvent mettre notre patience sous tension. Un ordinateur qui rame au plus mauvais moment, un document administratif qui n'en finit pas de ne pas arriver, une tâche dont on ne voit pas le bout, la météo qui vient gâcher des vacances prometteuses, ces masques qui limitent notre souffle et notre capacité d'expression, d'échange avec les autres. Virus qui traîne et qui freine tout ce que nous aurions pu faire, nos projets, la liste est interminable. Jusqu'à quand porterai-je patiemment ces frustrations? Combien en faudra-t-il pour venir à bout de ma patience? Quelles sont mes limites, au fond? Mais si au lieu de concentrer mon attention sur mes limites, je pensais au but poursuivi par Dieu pour me faire progresser. Ne pas être dominé par l'irritation, par l'agacement, mais au contraire, les dominer. Laisser l'esprit produire en nous son fruit face à ces contrariétés de la vie. Pour reprendre le titre d'un livre connu, même et surtout quand personne ne nous voit, car c'est alors là qu'il agit le plus en profondeur. Un deuxième but poursuivi par Dieu pour les autres. Lorsque nos réponses aux provocations, aux agressions, aux humiliations ne sont pas dans la ligne de ce que leurs auteurs ont l'habitude de recevoir en retour, ils peuvent les intriguer, les interpeller, les apaiser, et faut reconnaître, le savoir aussi, parfois les exaspérer, en constatant le peu de prise qu'ils ont sur nous. Et Jésus lui-même a passé le message de cette manière-là. Et on sait bien qu'avant tout, il désirait sauver tous ces gens qui le traitaient de manière très diverse. Mais les autres ne sollicitent pas seulement notre patience dans les relations que nous entretenons avec eux. Nous pouvons être exaspérés pour d'autres raisons, et en particulier lorsque ces autres font partie de la communauté des croyants. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais plus le cercle se rapproche de nous, plus notre patience est mise à l'épreuve. C'est avec nos proches, nos plus proches, que nous manifestons sommes tentés de manifester le plus d'impatience. Ou peut-être la remarque de Chantal. C'est envers nos proches que nous avons le plus d'exigences. Qu'ai-je à faire que mon voisin s'exprime avec vulgarité, mais par contre, si c'est un de mes enfants? La communauté de l'Église est soumise à la même tension. Nous sommes bien moins exigeants envers ceux qui ne sont pas du même clocher. Encore pouvons-nous plus ou moins admettre nos différences que dans ce que nous sommes? Et comment le frère qui est assis à mes côtés peut-il s'adresser à Dieu comme il le fait? Comment peut-il avoir telle opinion? Comment peut-il porter ce jugement sur la communauté sans percevoir la patience qu'elle exerce à son égard? On n'en finirait pas de lister les récriminations que nous pouvons entretenir les uns vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la communauté dans son ensemble. Et parce que ce sont des questions qui nous touchent de près, peut-être nous les abordons avec plus d'âpreté. Voilà l'Église, un beau terrain d'exercice de la patience. Et dans ce domaine, le seul modèle de patience que nous puisse véritablement s'imposer, c'est celui de Jésus. Et de quelle patience n'a-t-il pas fait preuve envers ses propres disciples? Leur lenteur à comprendre ce qu'il leur enseignait est aussi la nôtre. Leurs querelles intestines sont aussi les nôtres. Leurs préjugés, leurs tabous, leurs attentes exacerbées, leurs exigences démesurées, leurs jugements inconsidérés, toutes choses qui parsèment la vie communautaire. Si Jésus, dans la poursuite de sa mission, s'est imposé la patience, et si c'est grâce à sa patience envers nous que nous avons pu devenir ses enfants, la conclusion s'impose d'elle-même quant à la patience que nous nous devons entre ses enfants. Heureusement, elle n'est pas de notre essence, elle n'est pas de notre fruit, elle est le fruit de l'Esprit. Il ne fait donc pas de doute que l'Esprit de Dieu agira en nous. Et plus elle manifestera, plus elle se manifestera comme les autres saveurs. Suivant que le même but que Dieu à notre égard, l'exercice de la patience fera la démonstration d'un Dieu qui nous dépasse, plus grand que nous, plus droit, plus fort. Dernier sujet d'exercice de la patience, et la patience envers Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'il lui prend ? Bien évidemment, elle ne se place pas sur le même niveau. Bien évidemment, nous ne pouvons pas légitimement lui reprocher quoi que ce soit qui nous amène à manifester de la patience à l'égard de Dieu. Mais il n'en demeure pas moins que Dieu met notre patience à l'épreuve de bien des manières. Une situation pénible qui se prolonge, un projet que nous formons qui ne décolle pas, et même un appel de Dieu qui met du temps à se concrétiser. Parler de nos limites personnelles qui semblent nous faire obstacle. Et vraiment, on arrive au cœur du sujet que nous a rappelé notre jeune sœur tout à l'heure. Je fais de mien souvent ce verset que Paul exprime aux Éphésiens qui affirme que Dieu peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. De cette déclaration que Dieu peut faire infiniment plus par sa puissance qui agit en nous, infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons, de cette déclaration de mon expérience personnelle et des témoignages que j'entends autour de moi, je tire une conclusion. Oui, avec Dieu, on doit souvent attendre plus longtemps que ce qu'on pouvait espérer. C'est fréquent, souvent. Mais ce qui arrive à la fin, va au-delà de ce qu'on pouvait espérer de mieux. C'est mieux que ce qu'on espérait. Et en plus, on réalise que même le timing était plus pertinent aussi. La patience de Dieu a un but pour nous-mêmes, pour les hommes et pour son Église. Son Esprit produira en nous son fruit et la patience sera le témoignage. Je vous invite à prendre quelques instants pour méditer à ce sujet avant de continuer dans la suite de notre culte.